Nous voici, chers amis, enregistrant en cette veille de Pentecôte, alors que l'émission, vous allez l'écouter, eh bien, au courant de cet été. Et en fait, avoir été, être, les dimensions du temps, le passé, le futur, me permettent de dire que nous sommes de toujours, et c'est de toujours que je connais Jeanne-Marie. Bonjour Jeanne-Marie.
Bonjour Pascal.
Nous nous sommes rencontrés grâce à Camille Aubaud,
oui.
Qui est une grande amie et qui possède la maison des Pages, entre autres, à Amboise, et puis une autre maison là en Bretagne, et qui est une amie de toujours. Et alors, ce qui est assez extraordinaire en poésie, c'est que nous nous connaissons depuis peu, mais en fait, dans la vie d'ailleurs, en général, comme en poésie, on se trouve, on se perd, on se retrouve. Le temps perdu est toujours retrouvé, en tous les cas dans mon cas, et je dirais même qu'il est gagné. Alors là, je ne suis pas comme Marcel Proust, je ne crois pas que les rides viennent à la jouvence, mais que la jouvence vient aux rides.
Oh là là,
je me fais rire parce que j'ai devant moi un grand sourire. Alors, en un mot, Jeanne-Marie, avant de rentrer en poésie, peut-être qu'est-ce qui vous a conduit? Quel est votre chemin vers la poésie?
Le cœur, tout simplement. Le cœur, l'amour. De la nature, de la beauté, voilà.
Et alors, vous, la journaliste d'origine et de toujours, parce que finalement, ce qu'on a été, on l'est toujours.
Hein? Exactement.
Je crois ça profondément.
Oui.
On contient l'un et l'autre face à face et, et tous nos métiers et toutes nos vocations. La poésie, c'est vous qui l'avez défendue. Vous a-t-elle défendue?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que en fait, j'allais dire, je prête ma voix, c'est malvenu, mais enfin...
Non mais, dites-le, voilà.
Je veux dire que je fais passer à travers mes traductions, puisque je suis essentiellement traductrice de poésie. J'ai envie de faire passer la voix des autres, donc... J'aime la poésie française, mais en France, on n'a pas besoin de moi pour la traduire. Et comme j'ai vécu en Espagne, eh bien, j'ai commencé à traduire des amis espagnols, poètes, notamment les grands surréalistes de la belle génération de Lorca.
Voilà. Et là, vous venez de me passer un livre qui... tout juste paru, cette anthologie bilingue, Ma Verterine, donc la poésie irlandaise, et Dieu sait que l'Irlande fait partie avec, alors je cite quelques pays comme ça, fait partie avec la Pologne en particulier, mais aussi évidemment la Perse, l'Iran, des grands pays de la poésie. En fait, évidemment, j'ai été illuminé au-delà de toute question politique, dans ma jeunesse, par Lorca, c'est vraiment une évidence pour moi, tout simplement parce que il m'a fait découvrir l'intériorité. Voilà. La poésie, quel que soit le pays d'origine, pour vous, chère Jeanne-Marie, c'est justement cette intériorité, c'est au contraire une voix qui proclame, parce qu'il y a aussi la grande poésie politique, grande poésie d'opposition, de résistance, Dieu sait. Voilà, je pourrais citer un certain nombre de pays dans ce monde-là, et peut-être que la France, aujourd'hui, ce qui lui manque, parce que la France a eu de grands poètes pendant la résistance, justement. Enfin, le chant du poète est un chant qui s'élève au milieu des malheurs du monde et de l'espérance et de la certitude que l'amour est supérieur à tout.
C'est un petit peu tout ce que vous dites à la fois, mais pour moi, avant tout, la poésie, c'est un peu comme la musique. C'est un instant de grâce. On touche dans la simplicité parfois, avec quelques mots, au sentiment, une expression lyrique, quelque chose qui est universel en fait.
Et cette universalité, c'est l'universalité d'un instant qui ne cesse pas. Là, j'ai sous les yeux, peut-être vous voudrez le lire et on le lira pour que nos deux voix, voilà, s'associent. En ce moment, je parle beaucoup avec quelqu'un qui m'est très très proche de Yeats, que je tiens pour effectivement peut-être à un des grands, parce que j'ai été élevé avec Coleridge et Wordsworth. Voilà.
Oui, mais là, vous parlez d'anglais.
Oui.
Anglais.
Et la poésie irlandaise est en anglais, mais n'est pas d'anglais.
Il
absolument.
est irlandais.
Et par ailleurs, je suis, et je l'avoue à ce micro, l'homme d'Oscar Wilde. Heureusement, j'ai été sauvé de ce qui lui est arrivé parce que j'ai eu une mère exactement comme lui, et donc j'aurais pu suivre son chemin. Mais il se trouve que comme conservateur du Père-Lachaise, je me suis occupé de sa tombe. Comme ayant une propriété à Saint-Martin en campagne, je suis à côté de là où il habitait à l'hôtel de la plage, et puis de sa maison qui a été détruite. Et partout où je vais, Oscar Wilde me suit, et je ne suis pas loin d'être moi-même Dorian Gray. En tous les cas, quand je me regarde. Voilà. Donc, qui suis-je? C'est la question que je posais dans une précédente émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, de cette poésie en anglais si différente de la poésie anglaise, qui est celle des Irlandais?
Rien, parce que la poésie est la poésie, où qu'elle soit, quelle qu'elle
Donc, elle n'est pas
soit,
nationale.
la poésie est universelle.
Oui, vous répétez ce mot.
Et je le répète parce que c'est essentiel pour moi. Vraiment, je ne pense pas, sauf s'il y a des écoles précises, dans le classicisme ou autre. Mais moi, je l'entends et je la sens. Et je choisis mes poèmes comme étant des voix universelles, sans frontières.
Je suis là à l'instant devant quelques poèmes qui sont dans cette anthologie que vous venez de m'offrir, Visage de la poésie irlandaise d'Oscar Wilde à nos jours, qui est à Manifeste Édition et qui vient de sortir. Et je vois en dessous le Merle Moqueur. Et moi, ma librairie, c'est le Merle Moqueur de la rue de Bagnolet. Est-ce que c'est lié?
Je ne
Non.
crois pas.
Non. C'est
Parce que
drôle.
l'éditeur de Manifeste et le Merle Moqueur
Oui.
est Francis Combes, qui avait créé Le Temps des Cerises.
Ah, mais alors c'est le Merle Moqueur de, évidemment, de mon pays d'origine, auquel je consacre d'ailleurs un livre cette année qui s'appelle Le 13e arrondissement, une autre ville à côté de Paris. C'est l'homme de la butte aux cailles. Voilà. Ah, c'est le premier Merle Moqueur. Alors qu'il y a un deuxième Merle Moqueur
C'est
qui est.
celui-là.
D'accord, qui est la librairie
Et
de la rue de Bagnolet. Ok.
vous me parliez de Yeats.
Oui.
Voulez-vous qu'on lise
Oui,
un poème?
je vous le la... vous voulez lire lequel des poèmes?
L'île du lac Innisfree.
Ah oui, bah alors ça c'est extrêmement beau, je vous laisse, je le reprendrai après, je vous laisse le lire.
Si on arrive à m'entendre
Eh
correctement.
bien écoutez, on essaye, mais je pense que si Virginie nous dit qu'on vous entend, voilà, c'est parfait.
Merci, merci beaucoup.
Merci beaucoup, et
Plus
merci.
près, plus
Et
près du micro.
nous avons Francis Vélin qui assiste à cette émission, je lui ai permis, ayant préenregistré avec lui une émission à l'instant, d'être avec nous, je lui ai fait plus que permettre, je l'ai invité, il le souhaitait, et tu pourras, ou vous pourrez intervenir si vous le souhaitez. À vous, cher ami, donc l'île du lac Innisfree de notre cher et grand poète Yeats.
William Butler
Oui,
Yeats,
ah oui, j'aime beaucoup William Butler Yeats.
prix Nobel,
De littérature.
le premier sénateur de l'Irlande libérée des Britanniques après
Ah, vous me le rappelez, je
la
l'avais
Révolution.
complètement oublié.
C'est important, c'est très important.
Allez-y, en plein dans le
Donc,
micro.
d'accord, l'île du lac Innisfree. Je me lèverai. Et je m'en irai maintenant, et je partirai à Innisfree. Et là-bas, je construirai une petite cabane faite d'argile et de rameaux tressés. Là-bas, j'aurai 9 rangs de haricots, une ruche pour le miel, et je vivrai seul dans la clairière et le bourdonnement des abeilles. Et là-bas, j'aurai un peu de paix, car la paix tombe doucement. Elle tombe des voiles du matin jusqu'au chant des grillons. Là-bas, minuit n'est qu'une lueur et midi un rougeoiement, et le soir empli d'ailes de linottes. Je me lèverai et je partirai maintenant, car toujours, nuit et jour, j'entends le clapotis des eaux du lac, ses faibles sons sur le rivage. tandis que je m'arrête sur la route ou sur les pavés gris. Je les entends encore dans le tréfonds de mon cœur.
In the deep heart's core. Merci pour cette lecture. Je vais le dire aussi à mon tour, non pas pour reprendre votre voix, parce que vous l'avez dit de telle manière, et comme vous le savez, je suis comme vous, fou de poésie, vous l'avez dit avec les silences. Ma toute proche, ma compagne musicienne, fait entendre, y compris dans Rachmaninoff, les silences entre les notes, et elle me dit, c'est là que j'ai compris que la richesse de sa musique pourrait entraîner la confusion vu le nombre de notes, alors je les installe avec les intervalles. Et c'est ce que vous venez de faire. Et j'ai entendu, comme par une espèce de magie, si je l'avais connue, la voix du poète. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'obstacle, de mur entre l'écrit et ce que vous avez dit. C'est-à-dire que tout d'un coup, la poésie... Et c'est dans ce sens, puisque je suis l'héritier légitimé d'André Malraux et que je crée le musée imaginaire un peu partout en France, eh bien, le musée imaginaire, c'est comment l'art nous permet de triompher de la mort, car je regarde Aphrodite il y a 2000 ans dans les yeux et il n'y a pas de barrière entre elle et moi. Eh bien, là, la voix du poète était là grâce à vous et malgré les accidents qui sont arrivés à votre voix, vous avez été sa voix.
Merci, merci Pascal.
L'île du lac Innisfree. Je me lèverai. Et je m'en irai maintenant, et je partirai à Innisfree. Et là-bas, je construirai une petite cabane, faite d'argile et de rameaux tressés. Là-bas, j'aurai 9 rangs de haricots, une ruche pour le miel, et je vivrai seul dans la clairière, et le bourdonnement des abeilles. Et là-bas, j'aurai un peu de paix. Car la paix tombe doucement. Elle tombe des voiles du matin jusqu'au chant des grillons. Là-bas, minuit n'est qu'une lueur, et midi un rougeoiement. Et le soir, empli d'ailes de linotte. Je me lèverai et je partirai maintenant. Car toujours nuit et jour, j'entends le clapotis des eaux du lac, ses faibles sons sur le rivage. Tandis que je m'arrête sur la route ou sur les pavés gris, je les entends encore dans le tréfonds de mon cœur.
Merci. Si je pouvais applaudir, j'applaudirais. Très beau.
Francis voulait dire quelque chose.
Juste une observation sur la première lecture. Si la voix était faible, l'émotion était puissante.
Oui.
Nous sommes d'accord.
Entièrement. Entièrement, et elle donnait une vibration très profonde.
Personnelle.
Qui était, oui, et qui est liée au fait que c'est Jeanne-Marie qui l'a traduit.
Oui.
Et donc, elle était dans une intimité qui n'est pas la mienne. Et c'est très très intéressant, et ça me met, avant un premier passage musical, dans une question que nous allons laisser en suspens avant d'écouter les musiques, nous... Comme ça, nous écouterons en nous-mêmes comment nous allons y répondre. La question de la traduction, je dois dire que quand j'étais étudiant, dans le syndicat que je dirigeais en Sorbonne, j'ai publié un polycopier de thèmes latins. Donc je suis un homme du thème. La version, je les faisais tellement vite, en 20 minutes, que je n'avais pas le temps de m'y attarder et j'avais tort, parce que c'est une résonance, la traduction. Et vous l'avez traduit, c'est pour ça que j'ai lu la fin du dernier vers en anglais, avec cette résonance. Le tréfonds n'est pas le son anglais, c'est le son français. Et ça, c'est très, très intéressant. Je pourrais, puisque je suis musicien d'abord, hein, avant tout, c'est pour ça que je m'allie à la musique aujourd'hui, mais vous lui avez donné sa musique en français. C'est une forme d'équivalence très rare.
Mais performance.
Un moment de musique, ensemble. Nous écouterons et puis nous dirons ce qu'elle est, puisqu'elle a été choisie par Jeanne-Marie. Voici que nous nous retrouvons de part et d'autre de ce micro. Chacun le sien, cette grande table. Et
nous
voici
savons.
Que nous recevons Jeanne-Marie, en présence d'ailleurs de Francis Vella. Jeanne-Marie, c'est votre nom de plume, nom de famille, nom de quoi ?
C'est mon nom, c'est mon pseudo.
Voilà.
C'est mon pseudo. Là, je voulais.
Pourquoi
pas...
avez-vous choisi Jeanne-Marie comme pseudo ?
Attendez, je vais vous le dire, mais je voudrais juste préciser que nous venons d'entendre la musique de Handel, un motet interprété par l'ensemble Les Muses Galantes, qui est un ensemble de musique baroque créé par Louise Audubert. Voilà, pour répondre à votre question.
Merci, entre parenthèses, de choisir la musique baroque. Quand j'étais en charge à Versailles, j'ai lancé la Chapelle Royale. Et puis voilà, avec Philippe Bossan, nous avons promu la musique baroque, que j'ai promu partout en France. Et voilà, que nous nous retrouvons autour de Yeats, de la musique baroque. On se rencontre toujours, vous savez, mes chers amis de Radio Courtoisie, par hasard et finalement par destin.
Et oui.
Et voilà, et c'est ça qui nous assemble.
Donc, Jeanne, Marie. Ce sont mes deux prénoms de baptême. Et je suis pour la pseudonymie absolue.
Pourquoi ?
Comme ça, par discrétion, par...
D'accord.
J'ai d'autres pseudonymes sur ma carte de presse.
D'accord,
voilà.
D'accord. Alors, admettons que je ne suis pas en face de Victor Hugo, parce que vous pourriez vous dissimuler, n'est-ce pas, sous un autre nom.
je n'ai pas la prétention.
Voilà, mais puisque nous passons en revue les poètes de votre anthologie personnelle, et c'est cela qui m'intéresse beaucoup, voilà que nous trouvons là, grâce à vous, Hélène Cadou. Alors, je vous disais hors micro que, elle est venue beaucoup, beaucoup à ce micro, l'ami de Janine Burny, qui était la muse de Maurice Carême, évidemment, j'ai été très proche de l'école de Rochefort, et j'ai une passion, vraiment une passion totale, et puis pour ce couple, René-Guy Cadou et Hélène Cadou, qui lui a succédé, puisque malheureusement, il est mort prématurément. Qu'est-ce qui vous a approché, là, il n'y a pas de traduction, nous sommes directement du français au français, qu'est-ce qui vous a approché d'Hélène Cadou ?
Alors, oui, il y a traduction. Ce poème, Hélène, d'Hélène Cadou. Je l'ai sélectionné avec d'autres poètes français, puisque ça fait partie d'une anthologie.
Oui.
J'ai voulu faire connaître au public espagnol les poètes français contemporains.
Et vous les avez traduits en espagnol ?
Donc, j'avais choisi 20-25 poètes, mais l'éditeur n'a pu mettre qu'une quinzaine, donc le livre s'est appelé Quince poetas franceses contemporaneos. Et il a été édité en Espagne en 2015 dans une très belle collection.
Je vois d'ailleurs que vous y avez choisi celle qui était mon amie intime que je viens de perdre, qui a préfacé quelques-uns de mes livres, Vénus Corrigata.
Ah, Vénus.
Et bien sûr que vous aviez également Jean Métellus qui est venu à ce micro, Alain Borne.
Alors,
enfin, finalement,
voilà.
Nous sommes de la même, la même école.
J'ai choisi dans cette anthologie. Oui. Vous citez Jean Métellus, Vénus, bien sûr.
Oui.
Mais j'ai commencé par Segers, le grand Pierre Segers, celui de la résistance dont vous parlez. Les poètes casqués de la résistance. Et j'ouvre l'anthologie avec lui, car il y a des poèmes de... D'ailleurs, c'est lui qui a créé
la collection dont j'ai la quasi-totalité
la
des
maison
livres.
De la poésie à Paris.
Oui, d'une part. Et puis d'autre part, il a créé cette collection extraordinaire.
Voilà. Donc, j'ai pris,
sur les poètes.
En fait, dans cette anthologie, des poètes et des poétesses, toujours des voix féminines. De poètes.
Est-ce que je vous interromps une seconde ? Est-ce que, puisque j'ai été l'ami intime de Pierre Béarn et qu'il a consacré une anthologie aux poètes femmes ? Voilà, que j'ai, enfin à travers ses publications, etc. Et il avait fait d'ailleurs un grand bruit à l'époque en mettant les femmes en valeur. Quand je dis à l'époque, c'est il y a 50 ans. Même moi, imbécile que j'étais, que je suis peut-être demeuré, je disais « Oh, les femmes ne sont pas si créatrices que ça !» Enfin, vous savez, la grande idée des machos, hein ? Voilà.
Notre amie Camille aura les cheveux
absolument, Camille
qui se dressent sur la tête.
qu'on a évoqué tout à l'heure. En réalité, y a-t-il une quelconque différence entre poésie féminine, poésie masculine ? J'ai pu lire, parce que Pierre Berne publiait la poésie érotique selon les femmes. Hein, je dis bien dans sa revue, hein, que j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et j'ai bien vu que l'érotisme selon les femmes en poésie était très différent et beaucoup plus direct, beaucoup plus nourri, beaucoup plus évocateur, en tous les cas pour moi, me mettait beaucoup plus en transe que la poésie des hommes.
Alors vous touchez un domaine que je n'aborde jamais.
Ah bon ?
Je suis pudique, donc pour moi, je ne lis pas.
Oui, mais enfin,
l'érotisme, si on entend érotisme dans l'amour, d'accord, mais j'aime ce qui n'est pas dit, j'aime la métaphore.
Et vous aimez là donc, c'est ma première disserte en fac, en littérature, sur Mallarmé, était tout, l'art n'est que suggestion. Vous aimez donc la suggestion ?
D'une certaine manière, mais je n'aime pas du tout ce qui est très...
Trop direct.
Ce qui est direct.
Voilà. Mais je parle de Pierre Berne, c'est lui qui publiait cette anthologie de la poésie érotique selon les femmes.
Pourquoi Hélène ? Parce que bien sûr, qui n'aime pas René Kikadou, notamment le poème d'amour à Hélène, je t'attendais. Mais il est tellement connu que j'ai voulu donner place à Hélène qui est méconnue. Et c'est étrange parce que la nuit où je terminais la dernière touche de mes traductions,
oui,
d'Hélène, elle est morte. C'était le 21 juin 2014.
Je vais le lire, cette fois-ci on va inverser et vous le lirez après.
Si, comme vous voulez.
Je voudrais édifier une nuit idéale, avec des jardins sur le ciel, des routes en arcade et des fruits mûrs à chaque lampadaire. Je me souviens d'avoir parcouru cette ville, un soir paisible de miracles, à l'heure où le sommeil renverse sur les blés de nouvelles étoiles. La mer venait baigner le bord des quais infinis et les goélands emportait nos pensées vers les hautes tours noyées dans la baie. C'est alors que j'ai rencontré ton image la plus réelle. Et ta voix me parvint soudain, avec la clarté sidérale du souvenir. Aujourd'hui, l'aube se lève sur la ville et nous marchons comme autrefois, par des avenues éternelles vers les banlieues de l'univers.
Hélène Kadou. Je voudrais édifier une nuit idéale avec des jardins sur le ciel, des routes en arcade et des fruits mûrs à chaque lampadaire. Je me souviens d'avoir parcouru cette ville un soir paisible de miracles, à l'heure où le sommeil renverse sur les blés de nouvelles étoiles. La mer venait baigner le bord des quais infinis et les goélands emportaient nos pensées vers les hautes tours noyées dans la baie. C'est alors que j'ai rencontré ton image la plus réelle et ta voix me parvint soudain avec la clarté sidérale du souvenir. Aujourd'hui, l'aube se lève sur la ville et nous marchons, comme autrefois, par des avenues éternelles vers les banlieues de l'univers. Qu'en date des nuits intérieures 1958, vous rendez-vous compte qu'Hélène est restée veuve de René Kikadou pendant 60 ans.
Oui.
60 ans. Il était tout jeune quand la mort l'a fauché. Il était aussi merveilleux, je pense, que Federico Garcia.
Ah oui.
Une écriture poétique.
Oui, oui. Mais ce qui m'a beaucoup frappé dans ce couple étonnant, stupéfiant, c'est qu'elle est à sa hauteur. Et ce n'est pas par influence. Il y a là quelque chose comme Enfin, j'ai eu la chance, dans l'expérience de ma vie, puisque ma vie n'est qu'amour. Je peux dire que je me suis marié à 20 ans, et ça fait bientôt 60 ans même, plus. Et de fait, je n'ai jamais fait que vivre l'amour, ou le vivant, ou l'attendant, ou l'espérant. Mais je sais ce que c'est finalement que peut-être d'être créé par nos parents, mais aussi d'être créé par la rencontre. Et on pourrait dire que c'est elle qui a été influencée par lui, mais ou lui par elle. En fait, il y a un moment donné où il y a cette chose extraordinaire qui fait que deux tempéraments deviennent un, qui deviennent trois. Et j'ai entendu beaucoup de choses sur Hélène comme étant la Vierge fidèle. Beaucoup de gens ne la lisaient pas, lisaient René Guy, parce que voilà, c'était un peu toujours le machisme ordinaire, disant « elle ne peut qu'être », et puis moi je l'ai lu. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ils sont dans une équivalence différente. Voilà, c'est comme ça que je pourrais le dire. Et je pense que c'est un couple, j'ai beaucoup défendu dans le milieu artistique, des couples où, parce que souvent dans le domaine des arts plastiques, les hommes enterrent un peu leurs femmes, qui sont souvent de grandes artistes. Je pourrais citer des cas, mais ils sont tellement nombreux. Voilà, mais je pourrais citer par exemple, puisque j'étais l'ami d'Ossip Zadkine, voilà, bah, Valentine Gross était exceptionnelle. Exceptionnel. Bah, qui parle de Valentine Gross aujourd'hui? Bah, je vois que Jeanne-Marie en face de moi, oui. Mais qui? Voilà. Et je l'ai connue intimement. Et quand j'étais chez eux, parce que j'étais chez eux, au 100 bis rue d'Assas.
Dans la jolie petite maison.
Mais dans la jolie petite maison qui est aujourd'hui jardin. Le musée, absolument. Et ben, il ne lui laissait pas la parole, il m'accaparait. Il n'était que là. Voilà. C'est un exemple, hein, parmi d'autres. Mais voilà que la question que je voudrais vous poser avant que nous abordions Federico Garcia Lorca, chère Jeanne-Marie, c'est au fond, qu'est-ce que la poésie a fait de vous au fil des années?
Comment vous répondre? C'est difficile parce que là, ça me ferait parler de moi-même.
Oui, mais...
Et je ne pense pas que la poésie m'ait façonné. Je veux dire que l'âme poétique, on l'a en soi un peu. Comme la veine musicale, ou comme l'art du jardinier, ou d'autres penchants. Donc je pense que c'est par nature qu'on se penche dans la poésie. Et j'ai voulu mettre ma connaissance des langues, un petit peu, au service des autres. Et c'est pour ça que j'ai fait trois anthologies, en fait. L'anthologie de poètes français contemporains pour l'Espagne. Une anthologie de poètes espagnols de la génération de 1927, donc les surréalistes, Lorca, Alberti, Cernuda.
Et nous allons entendre maintenant.
Les grandes voix du XXe siècle, de ces poètes extraordinaires.
Y a-t-il encore des poètes aujourd'hui?
Il y en a tout le temps.
Alors ça c'est très bien.
Il y a des poètes partout, même des gens qui ne savent pas.
Pas qu'ils le sont, c'est ça.
Comme la philosophie, comme disait Monsieur Jourdain,
oui.
Des tas de gens ont l'âme poétique sans le savoir.
C'est oui, vrai. Il leur manque quelquefois la langue.
Mais peut-être, mais même les gens les plus simples, je le crois.
Bah, ils sont poètes. Ils sont poètes sans la parole.
Et
même.
Non, lettrés sont capables parfois, avec quelques mots.
Ah, quelques mots, oui.
D'avoir un parfum poétique.
Les quelques mots dont vous parlez, c'est cette résonance des civilisations qui fait que nous avons à notre portée les outils. Un jour, puisque j'ai abordé dans mes métiers, avant l'architecture, la taille de pierre, je disais, puisque j'étais déjà pianiste, et je disais à mon maître, qui me disait « mais vous ne pouvez pas faire de l'architecture si vous ne manipulez pas l'outil ». Et il a eu cette parole qui est souvent citée par moi, à mes amis dans le métier, voilà, il m'a dit, mais si vous aimez l'outil, il vous aimera autant. Et voilà, et je ne me suis jamais blessé, puisque mes doigts sont intacts. Enfin, je me suis peut-être quelquefois fait un peu mal.
Vous étiez d'ailleurs de pierre.
Oui, oui.
De pierre.
Oui, oui. Oui, je suis compagnon du Tour de France. Et donc, et ça tient beaucoup à ma vie, puisque je suis un nomade. Nous sommes des aventuriers, hein, donc nous ne sommes pas, puisque je m'occupe aussi de l'apprentissage, qui sont plus coucounés, si j'ose dire, c'est une autre tradition, qui est la protection par les parents, alors que le compagnon y va au gré des vents. Et il s'aventure et il mène une vie rude, je suis quelqu'un de très rude, et en même temps de très doux. Je dirais que les mots me permettent d'être à la fois doux et violent.
Le compagnonnage est un très beau métier.
Ah oui, c'est un métier de vie. C'est un métier de vie et on pourrait en parler longtemps. J'ai participé ici à des émissions là-dessus. Mais revenons, si vous le voulez bien.
À la poésie.
À la poésie et à cet homme qui a enchanté ma vie. Je me souviens, j'ai appris l'espagnol que j'ai perdu. J'ai appris le portugais, par contre, que je n'ai pas perdu. Et il se trouve qu'il y avait un mot dans les traductions de Federico García Lorca, qui est un très beau mot français qui a marqué ma jeunesse, qui est le chaleil.
Chaleil.
Chaleil. Chaleil, C-H-A-L-E-I-L. Le chaleil, ben, vous regarderez dans un dictionnaire ce que c'est. Ça nous permet d'éclairer la vie. Voilà, le chaleil est un mot merveilleux et qui est une traduction. Voilà, c'est-à-dire que Lorca, ce que je veux dire par là, et je laisse nos amis auditeurs découvrir le chaleil, une traduction dans notre langue française, qui est ma langue principale malgré tout, bien que je sois franco-suisse alémanique, eh bien, ça m'a permis de découvrir ma langue à travers sa sensibilité à lui. C'est-à-dire que le traducteur, et il se trouve que je lis des traductions du polonais, du russe, du farsi, de tout ce qu'on veut, du chinois, de toutes les langues que j'ai abordées, du sanskrit aussi, eh bien, à chaque fois, ça me permet de pénétrer notre langue. La langue française, comme chacun sait, est faite de 25 langues. C'est une des langues les plus difficiles au monde, d'ailleurs. Peut-être même la plus difficile. Et comme j'ai appris énormément de langues, je sais que c'est une langue très difficile. Effectivement, je dirais que quand j'ai écouté les Saeta, parce que j'ai vécu à Séville, parce que j'avais une de mes filles qui était à Séville, puis je me suis occupé des confréries, voilà, de la grande confrérie du Grand Poder, voilà, qui est la plus grande des confréries espagnoles d'ailleurs. Voilà, j'étais dans la Semaine Sainte et tout ça. Eh bien, quand j'ai vécu là-bas, entendre Saeta, ça résonne en moi comme une langue. Vous parliez d'universalité, chère Jeanne-Marie, comme une langue universelle où à un moment donné, tout est résonnant. Je suis un disciple d'Hartmut Rosa. Hartmut Rosa, c'est le grand sociologue philosophe allemand actuel qui a publié toute une philosophie sur la résonance. Et nous sommes là dans une émission sur la résonance. Et votre voix, quelle qu'elle soit aujourd'hui, résonne à ce micro. Je vais lire la guitare et vous le lirez après si vous le voulez bien.
Je le lirai peut-être en espagnol.
Alors justement, en espagnol, puisque j'ai fait de cette émission une émission, oui. Après ça, nous écouterons le bobino. Commence la plainte de la guitare, se brisent les coupes de l'aube. Commence la plainte de la guitare, c'est inutile de la faire taire. C'est impossible de la faire taire. Elle pleure monotone comme pleure l'eau, comme pleure le vent sur la chute de neige. C'est impossible de la faire taire. Elle pleure pour des choses lointaines, sable brûlant du sud, qui appelle des camélias blancs. Elle pleure, flèche sans but, le soir sans lendemain. Et le premier oiseau mort sur la branche, ô guitare, cœur mortellement blessé par 5 épées.
La guitare empieza el llanto de la guitare. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitare. Es inútil callarla, es imposible callarla. Llora, monotona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas, arena del sur, caliente, que pide camelias blancas. Llora, flecha sin blanco, la tarde sin mañana, y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh, guitarra, corazón malherido por 5 espadas, Federico García. García Lorca.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Avant de revenir à Federico à travers Raphaël Alberti et Jeanne-Marie, je voudrais vous lire un poème. Souvent, il m'arrive de lire un de mes poèmes que j'ai dédié récemment à Federico.
Ah ben.
Et aussi à la femme que j'aime. Parce que les deux, pour lui comme pour moi, vont ensemble. Et qui s'intitule « Ai-je jamais vu ?» Ai-je jamais vu mes yeux ailleurs que dans les paroles passées par tes yeux, puis ta bouche et mes oreilles étonnées, et ce qui est en moi et que j'ignore même derrière les paupières. Oui, je ne sais regarder qu'en dérobant la beauté à l'amour qui s'inscrit dans mes pupilles et me dispense de connaître la réciproque. Car je m'ignore encore, ne m'étant senti et entendu et reconnu pour la couleur et la forme que par le pinceau d'une écriture aussi rayonnante que la lune de jour, celle que mon amante maintenant fait monter à côté du soleil des jours comme des nuits et leur famille d'étoiles. Comme dansent les heures, je me retrouve dans nos yeux, à répéter la joie qui se balance au-dessus de nos sourires, descendue dans nos mains, puis le long de tes jambes, jusqu'aux ballerines. Ah, comme elle frôle, sans jamais peser plus qu'un soupir.
Bravo.
C'est tout à fait dans...
Vous êtes sentimental.
Au-delà du possible.
Et... Mais il n'est pas trop émotif, c'est ça qui est bien.
Je suis ému et pas émotif.
Moi, je suis très émotif.
Ah ben, j'ai compris, j'ai vu ça.
Bienvenue au club.
Et lui, mon cher Francis Vélin qui est là, lui c'est pire que tout, lui il en perd la parole. De Raphaël Alberti, vous avez choisi, chère Jeanne-Marie, ce poème dans votre deuxième anthologie bilingue. Donc, Les chemins de l'âme, amusant, alors que j'ai publié récemment à la masse, que vous avez sous-titré « Mémoire vive des poètes espagnols de la génération de 1927 ». Entre parenthèses, 1927, rappelez-nous historiquement
justement,
ce que ça signifie.
1927, en Espagne, était l'année du tricentenaire de la poésie baroque du siècle d'or.
Voilà.
Et donc, pendant les célébrations, à Luis de Góngora, ce grand poète oui. de la Edad de Oro, il y a eu des jeunes, dont Federico García Lorca, Pedro Salinas et d'autres, qui ont revendiqué l'appartenance à la poésie dite classique, ancienne, et en même temps l'élan de la modernité. Et alors ils ont fait un petit peu de tapage à l'Ateneo de Séville.
Ah oui.
Et du coup, ça a créé un mouvement avec d'autres poètes, Dámaso Alonso. C'est en fait dans cette anthologie que j'ai eu l'honneur de présenter, là même à Séville, à l'Ateneo de Séville.
Quelle chance.
J'ai pu
Quelle rassembler. Gloire même.
Oui, un peu. En tout cas, c'était un bonheur. J'ai pu rassembler dans cette anthologie 17 poètes, donc dont 5 poétesses qui n'avaient jamais été unies aux voix masculines, justement. Donc, d'ailleurs, si l'an prochain, le cœur vous en dit,
oui.
cher Pascal, nous pourrons faire une émission pour le centenaire
ah, oui.
de cette Bien, génération.
Évidemment, de ce mouvement de 1927.
Voilà.
Et je me permets là, parce que le temps s'avance, D'accord. de lire seul le poème dédié à Federico par Raphaël Alberti, qui nous a quittés après presque centenaire, là, en 1999. Federico, je viens par la rue del Pinar pour te voir à la Residencia. J'appelle à la porte de ta chambre. Toi, tu n'es pas là. Federico, toi, tu riais comme personne. Tu disais toutes ces choses, toi, comme plus personne ne les dira. Je vais te voir à la Residencia. Et toi, tu n'es pas là. Federico, dans ces monts de la Nienne, tes oliviers grimpent encore. J'appelle leurs branches avec le vent. Toi,
oui,
toi,
tu es là.
Tu es là.
Merci Jeanne-Marie de nous avoir fait entendre cette voix. Et je voudrais que nous terminions, pourquoi l'avez-vous choisie, par Eva Gorbouf, que j'avoue, vous me faites découvrir, car je ne la connais pas.
Ah, c'est une poétesse irlandaise que connaissent les gens de plus de...
C'est plus de 100 ans. Allez, oh, je n'ai pas encore 100 ans. Ça
va classique.
Venir.
Un classique.
Oui. Et
elle est dans l'anthologie irlandaise que nous allons présenter là.
Alors, je vous laisse lire et je lirai après Les Petites Vagues de Breffni, si vous permettez. Et je passe de l'autre côté de cette table le poème à Jeanne-Marie. Nous conclurons d'ailleurs avec ce poème.
Ah, d'accord. Eva Gorbouf, qui était née à Sligo, la ville de Yeats, en 1870, et qui est morte à Londres. Les petites vagues de Breffni, la grande route qui part de la montagne, brille jusqu'à la mer. Il y a du trafic et beaucoup de chevaux et de charrettes. Mais les petites routes de Clunna me sont tellement chères, ces petites routes de Clunna qui se promènent dans mon cœur. Une grande tempête venant de l'océan hurle sur la colline. Et il y a de la gloire en elle et de la terreur dans le vent. Mais l'air hanté du crépuscule est très étrange et calme. Et les petits vents du crépuscule sont plus chers à mon esprit. Les grandes vagues de l'Atlantique déferlent en tempête, brillent de vert et d'argent, avec les bancs de harengs cachés. Mais elles ont trempé mon cœur dans les embruns. Les petites vagues de Breffni qui trébuchent dans mon âme. Voyez, Pascal, pourquoi j'aime la poésie. Pour ces choses si simples, si ordinaires.
Mais l'ordinaire, il n'est ordinaire que parce que nous le voyons, nous le regardons. Tout nous est donné, vous le savez, cher. Nous avons tout reçu, je comprends bien. Oui, finalement, vous êtes une écologue de la poésie, si j'ose dire. Les petites vagues de Breffni que vous avez dites avec, je dirais justement, ces beaux silences de la contemplation et de l'émerveillement. La grande route qui part de la montagne brille jusqu'à la mer. Et il y a du trafic et beaucoup de chevaux et de charrettes. Mais les petites routes de Clonac me sont tellement chères, ces petites routes de Clonac qui se promènent dans mon cœur. Une grande tempête venant de l'océan hurle sur la colline et il y a de la gloire en elle et de la terreur dans le vent. Mais l'air hanté du crépuscule est très étrange et calme. Et les petits vents du crépuscule sont plus chers à mon esprit. Les grandes vagues de l'Atlantique déferlent en tempête, brillent de vert et d'argent avec les bancs de harengs cachés. Mais elles ont trempé mon cœur dans les embruns, les petites vagues de Breffni qui trébuche dans mon âme. Je voudrais conclure, cher, par votre anthologie. Rappelons que c'est publié aux éditions Manifeste.
Et qu'elle s'appelle Ma verte Irine.
Exact. Et qui est l'œuvre de ce prix Nobel qui est Seamus Heaney?
Seamus.
Seamus, pardon, Seamus. Oui, c'est Seamus, ça se écrit Seamus, mais c'est Seamus Heaney qui a été prix Nobel en 95. Et j'aime beaucoup ce poème. J'ai feuilleté tout à l'heure et je l'ai aperçu. Et il est revenu là, et il va être notre conclusion, c'est la chanson. Je pense que vous allez l'aimer tous, mes amis. Merci Jeanne-Marie. Un sorbier comme un bâton de rouge à lèvres, entre la route secondaire et la route principale, au loin, des aulnes humides et ruisselants se détachent parmi les joncs. Il y a les fleurs de bourbier, du dialecte, et les immortels de l'oreille absolue. Et ce moment où l'oiseau chante tout près, la musique de ce qui survient. Grâce à vous, Jeanne-Marie, ce qui survient a été, au cours de cette émission, ce qui advient. Et peu à peu, nous sommes en train de devenir ce que ça devient. Alors, entre tous ces viens, ces vents de viens, ces vents de bien, ces biens devant, ces viens devant, ces viens derrière, je vous invite, chers amis auditeurs, à parcourir à travers les anthologies de la poésie beaucoup plus qu'un récapitulatif, un inventaire de votre cœur et de votre âme, car c'est bien de cela dont il s'agissait, n'est-ce pas?
Merci, oui Pascal, il s'agit bien de l'âme et du cœur dans la poésie et de l'amour de la nature.
Merci, et vive la poésie!
Vous venez d'entendre Promenade et Flâneries au domaine de poésie dirigé par Pascal Payen-Penzeller, émission préenregistrée le 22 mai 2026 et diffusée pour la première fois vendredi 28 août 2026 de 10h à 11h et réalisée par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.